Merci Élodie Fauré, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. La Pologne est-elle en train de glisser vers une démocrature, à mi-chemin entre démocratie et dictature? L'Union européenne s'est beaucoup inquiétée de plusieurs mesures adoptées par le gouvernement polonais et qui vont déboucher sur un remaniement profond de la justice et sur un contrôle plus étroit des médias publics polonais, au point que Martin Schulz, président du Parlement européen, a parlé de coup d'État. Depuis, les esprits se sont un peu calmés. Mais Bruxelles a lancé contre la Pologne une procédure de sauvegarde, de vérification de l'état de droit. Il n'empêche, dans les médias publics polonais, une purge a déjà commencé. Les directeurs d'antenne ont démissionné sur Polska TV. La star de l'information, Anna Lis, a été limogée. Le pouvoir place des journalistes amis dans les télés et les radios publiques. Être journaliste aujourd'hui en Pologne, quelle liberté pour la presse, on en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Piotr Moszynski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à RFI. Marc Semaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du service Monde de Libération. En duplex de Bruxelles, Jurek Kuszkiewicz, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en charge des questions européennes pour le quotidien belge Le Soir et vous avez publié dans la collection L'âme des peuples, Pologne, la noblesse de la terre. Bruno Caden est également avec nous. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Grand reporter au service étranger de France Culture. Notre regard extérieur aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue de l'émission. Bonjour Mariette.
Bonjour.
L'actualité à l'étranger en nous rejoindrant à Jérusalem, Étienne Monin. Le clin d'œil de la semaine signé Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Antoine Tricot, Vincent Abouchard. Avec aux manettes aujourd'hui Valérie Lavalard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Déjà plusieurs dizaines de journalistes écartés et des Polonais parfois surpris par de tels changements.
Avant, il y avait déjà des nominations selon les alternances politiques. Mais là, ça n'a jamais été aussi brutal.
À la télévision, les conservateurs estiment que les libéraux sont surreprésentés dans les médias. Alors ils ont voté une loi autorisant le ministre du Trésor à remplacer sur le champ les directeurs des chaînes publiques.
Lorsqu'un membre du cabinet à lui seul a le pouvoir de décider qui dirige l'audiovisuel public, il est difficile de parler de pluralisme.
Le secret des sources.
Voilà extrait du reportage diffusé sur France 24 et France 3. Piotr Moszynski, journaliste à RFI. Est-ce que l'on sait déjà combien de journalistes ont démissionné ou ont été poussés à la démission en Pologne?
Très franchement, c'est difficile à dire en ce moment, car ça a commencé et ça dure. Moi, je reçois quotidiennement des informations de mes collègues qui se sont vus privés de leur programme ou alors simplement licencié. Maintenant, c'est plutôt au niveau des chefs, c'est-à-dire ce sont
les directeurs d'antenne.
Les directeurs d'antenne, car il y a déjà une loi sur les médias publics qui est passée au Parlement. Elle est appelée petite, mais il y aura une grande au plus tard au mois de juin qui annonce des licenciements massifs. À tous les niveaux.
On va reparler. Jurek Kuszkiewicz du quotidien Le Soir. La Pologne est-elle en train de devenir une démocrature? C'est le terme qu'on voit de plus en plus souvent là depuis ce début d'année.
Oui, effectivement. Mais en réalité, ce qui se passe en Pologne, c'est qu'il y a évidemment cette loi sur les médias. Il y a toute une série d'autres mesures qui ont été prises par le nouveau pouvoir. Et chacune de ces mesures, en réalité, est du genre de celle que des nouveaux gouvernements mettent en pratique après être arrivés au pouvoir. Mais ici, ce qui est spécifique, c'est que ce gouvernement-ci a pris beaucoup de mesures sur une très courte période de temps, ce qui donne à penser, d'ailleurs c'est un petit peu l'effet, ce qui donne à penser qu'il s'approprie tous les leviers de pouvoir, notamment ceux sur les médias, parce que ce pouvoir, c'est en tout cas ce dont on l'accuse, veut non seulement avoir le pouvoir, mais aussi en quelque sorte prendre le pouvoir sur les âmes, sur les esprits. Évidemment, ici, les médias sont très importants.
Les médias, la justice, les services secrets, je crois aussi.
Tout à fait. Les patrons des administrations publiques, ils ont changé la façon de désigner les patrons des administrations publiques, de même qu'ils viennent de le faire justement par cette petite loi, donc cet amendement à la loi audiovisuelle sur les processus de désignation des patrons de l'audiovisuel public. Effectivement, c'est une façon, tout simplement, c'est patent, c'est évident, de s'assurer du contrôle total sur ces responsables, sur ces hauts dirigeants des administrations.
Marc, ces mots de Libération que vous inspirent ces mesures prises depuis octobre et qui s'accélère en janvier.
Alors, ces mesures se sont accélérées en janvier, mais il y a un autre élément qui est typique d'une démocrature, qui fait penser à la Russie de Poutine.
On a parlé de poutinisation.
Ou en son temps, d'ailleurs, même à la Serbie de Milosevic. C'est le fait que le véritable patron politique du pays, le leader et fondateur du Parti Droit et Justice, du PiS, Jaroslav Kaczynski, n'apparaît pas. C'est-à-dire, le véritable patron, c'est lui.
C'est le roi sans couronne.
C'est le roi sans couronne, parce que ce n'est pas la première ministre Beata Szydło, je le prononce mal, qui gère le pays. Ce n'est même pas le président, qui a des pouvoirs surtout honorifiques et du même parti, Andrzej Duda. Donc le véritable patron, c'est ce Jaroslaw Kaczynski, qui vit seul dans une espèce de maison, dans une banlieue chic de Varsovie, qui vit tout seul parce que, il y avait son frère, son jumeau, Lech, qui est mort dans un accident d'avion à Smolensk.
En 2010.
Avant les commémorations de Katyn. Il vivait avec sa mère qui est morte en 2013, il lui reste deux chats. Et cet homme qui est le véritable patron du pays est là dans l'ombre. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui décide de domination, c'est lui qui décide de la ligne politique. Et en même temps, il n'apparaît pas, je crois qu'il est tout juste député, et basta.
Et visiblement, la presse publique ne lui plaît pas beaucoup, Piotr Moczynski.
Ne lui plaît pas vraiment beaucoup. Il est extrêmement méfiant par rapport aux médias. Il apparaît très rarement dans les médias. Ces derniers temps, il s'est montré quand même à la télévision Republika, qui est vraiment dévouée à la cause de droit et justice. Il a donné une interview de presse, mais il apparaît dans les médias très rarement. Il refuse de répondre aux journalistes quand il les rencontre, par exemple, dans le couloir du Parlement. C'est très, très rare. Il vit vraiment dans une sorte d'autarcie politique.
Alors, je vous propose d'aller à Varsovie, retrouver notre correspondante, Maya Szymanowska. Bonjour, Maya.
Bonjour.
Alors, le point de départ, c'est donc la loi du 8 janvier. Qu'y a-t-il, Maya, dans ce texte ?
Alors, en fait, cette loi a été votée juste avant le Nouvel An par l'Assemblée polonaise. Pour mémoire, les conservateurs du droit de la justice jouissent à cette Assemblée d'une majorité confortable. Et le 7 janvier, cette loi a été signée par le président polonais Andrzej Duda. Donc, de fait, elle met sous la tutelle du gouvernement les médias publics, elle les met au pas. C'est le gouvernement, et plus précisément une ministre de la Culture, qui nomme désormais les chefs de l'audiovisuel public. Alors, ce qui n'a pas été une surprise, vous l'avez dit, Jarosław Kaczynski et les conservateurs n'aimaient pas trop, en tout cas, la tournure que prenaient les médias publics, qui critiquaient la politique des conservateurs. Donc cette loi a été immédiatement appliquée. On peut parler d'une action éclair, presque d'un blitzkrieg, pardonnez-moi l'expression, puisque depuis le début de l'année, depuis les 15 jours que cette loi existe, plusieurs dizaines de journalistes ont perdu leur travail ou ont démissionné. Je peux citer ici effectivement le chef de le directeur de la chaîne première de la radio publique, Camille Dombrova, qui n'était pas du tout en odeur de sainteté auprès des conservateurs, parce que avant son poste donc de rédacteur en chef, de directeur de cette chaîne d'information, c'est un petit peu comme France Inter en Pologne, la chaîne 1, il a été humoriste et a critiqué beaucoup d'une manière acerbe la politique de Jarosław Kaczynski.
Maya, la presse polonaise, les journaux, radio, télé, proposent quel genre d'informations en ce moment ?
Alors oui, ça a beaucoup changé, effectivement. J'ai regardé le JT ces derniers jours. Et depuis que Jacek Kurski, est patron de la télé publique. Il a été appelé Pitbull du droit et de la justice. C'est quelqu'un qui est très connu pour ses prises de position violentes et d'extrême droite. Il a été pendant un temps député de la Ligue des familles polonaises. Donc depuis que ce Jacek Kurski est à la tête de la télévision publique, effectivement, le JT a beaucoup changé. Enfin, c'est devenu vraiment un organe de propagande des conservateurs. Et les internautes qui s'opposent à cette politique s'en donnent à cœur joie. Sur Internet, on peut voir beaucoup de posts qui remettent le jingle du JT de l'époque communiste, de Jimnik, pour montrer justement le parallèle avec le journal télévisé d'aujourd'hui.
Merci Maya Szymanowska, correspondante de France Culture à Varsovie. Alors le problème aux yeux du gouvernement issu du parti Droit et Justice, c'est le manque de neutralité. Krzysztof Chabanski, secrétaire d'État en charge de la réforme des médias, on l'écoute.
Les médias publics ne remplissaient plus leur mission ces dernières années. Ils ne présentaient plus l'information de manière neutre et objective. Au cours de la campagne électorale, nos électeurs ont souvent dit qu'ils ne se reconnaissaient pas en regardant la télévision publique. Ils se sentaient méprisés par les journalistes.
Voilà, des médias pas objectifs, Jacek Tacik, journaliste de la première chaîne de télévision qui vient d'être renvoyé.
Cela se passe toujours de la même manière. Nous sommes convoqués, on nous donne une lettre de licenciement et la plupart du temps sans justification. On nous dit juste que le temps du changement est venu et que l'on ne correspond pas à ce renouveau.
Voilà, Bruno Kaden, donc du service étranger de France Culture. Vous étiez en Pologne en octobre dernier pour les élections. Cette reprise en main des médias n'était-elle pas prévisible ?
Alors, ce qu'il y avait de surprenant, ce qui m'a marqué durant cette campagne électorale, c'est qu'en fait, on avait l'impression que la société polonaise ne voulait pas y croire. Et même les journalistes ne voulaient pas croire à cela. Il y avait à peine, on va dire, quelques libéraux, la plupart du temps qui étaient issus de Solidarność des années 90, qui eux, y croyaient. Il y avait par exemple la Wyborcza Gazeta, l'un des principaux quotidiens en Pologne, qui est de cette tendance libérale, qui en parlait. Mais à part ça, on avait l'impression que la société polonaise ne voulait pas entendre. Et que les gens qui disaient attention, méfiance, il peut se passer quelque chose, on ne les écoutait pas. Et dans le magazine que j'avais réalisé pour la rédaction, il y avait même des journalistes qui disaient non, mais la Pologne, on sort de 25 ans de démocratie, on n'en est pas là, c'est pas possible. Et puis la société civile est importante, ça ne pourra pas se passer. En fait, on avait l'impression qu'il y avait une telle colère dans la société que personne ne voulait entendre, n'avait vraiment envie d'entendre cela. Pourtant, il y a une chose qui aurait pu mettre la puce à l'oreille, c'est dès le soir des élections, à 20h05, ce n'est pas Beata Szydło, la future première ministre qui est intervenue pour commenter la victoire. C'est Kaczyński lui-même qui a pris la parole sur toutes les chaînes de télé dès 20h05 pour dire nous avons gagné. Et après, la future première ministre est intervenue. Donc, on a senti que dès 20h05, le symbole de la revanche, en gros, était en marche.
Ouais, c'est ce que disait Marc Semo, le roi sans couronne. Mais l'ancien président Lech Kaczyński, Piotr Moszynski, Lech Kaczyński n'était pas déjà très tendre en 2006, dès le début de son mandat de président avec les journalistes. Il voulait créer un bureau de surveillance.
C'est vrai, mais en même temps, Lech Kaczyński était beaucoup plus respectueux de droit. Ça, il faut dire qu'il soulignait ça toujours à différentes occasions. Il était d'ailleurs juriste de formation et s'il était vivant, il n'aurait certainement pas permis cette attaque sous cette forme et avec une telle rapidité contre les tribunaux constitutionnels. Ça, j'en doute vraiment fort. Mais c'est vrai que Droit et Justice, déjà en 2005-2007, présentait une ligne dure. Une ligne nationaliste et populiste, ça c'est vrai, mais ils n'ont pas eu assez de temps pour vraiment aller au bout de ces rêves. Et donc maintenant, je crois que c'est un des facteurs qui explique la rapidité des changements. Maintenant, ils se disent qu'il faut agir vraiment vite pour avoir rapidement tous les leviers de pouvoir en main et donc être en sécurité, en quelque part, c'est leur sentiment.
Marc Semo, les médias en Pologne sont très
très politisé ?
Il y a un peu de tout, mais ce qui est quand même extrêmement révélateur, d'abord dans toute cette affaire, ouais. c'est que ça arrive en Pologne. C'est-à-dire la Pologne était quand même un peu jusqu'ici à l'Est le modèle, et économiquement, avec son dynamisme, sa croissance, etc., etc., et même en partie politiquement. Hein. Actuellement, le président du Conseil européen, c'est Donald Tusk, hein, de la plateforme civique, qui avait été premier ministre polonais. Donc la Pologne était vraiment le symbole de cette Europe de l'Est qui marchait. Et ce qu'on avait oublié, c'est qu'il y avait une Pologne à deux vitesses. Et aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer maintenant, cette espèce de revanchisme terrible du parti droit et justice, c'est la revanche de cette autre Pologne. C'est, je pense, une première chose. Ensuite, ce qui est en train de se passer au niveau des médias, pour le moment, ça vise les médias publics, mais déjà, ça commence à viser les médias privés. Alors, c'est pas encore explicite, mais on dit que des sociétés d'État commencent à retirer leur publicité des grands médias privés. Certaines télévisions privées, hein, qui sont plus écoutées souvent que la télévision publique, bah, disons, leur patron, il y avait l'exemple de Polsat, hein, qui est une des grandes chaînes, dont le patron Zygmunt Solorz est en lice actuellement pour un des réseaux de téléphonie mobile. Bon, bah, comme on l'a vu dans d'autres pays, alors l'exemple de la Turquie, on l'a tous en tête. C'est vrai qu'un entrepreneur qui se montre amical pour le pouvoir et donc qui verrouille ses médias a plus de chances d'obtenir certains gros contrats publics. Donc la peur aussi, elle est là. La peur est que, surtout avec quand la loi sera complétée, on n'en reste pas aux médias publics, mais que, y compris la presse privée, soit dans le collimateur.
Alors, Mariette Darigrand, donc, sémiologue, ce contrôle étroit des médias publics se fait donc au nom de la fiabilité, de l'objectivité, de la neutralité des journalistes, des vertus essentielles, selon le pouvoir en Pologne. Mariette, il faut se méfier de l'utilisation des mots qui peuvent apparaître anodins ou positifs.
Absolument, il y a une instrumentalisation des mots positifs contre lesquels on ne peut pas être en désaccord. Et ça me semble une des clés de l'incrédulité au départ, hein, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de l'exemple polonais aujourd'hui par rapport à la situation ailleurs en Europe à cause du populisme. Ça fonctionne comme ça, le populisme. Ça commence par le pouvoir extraordinaire du soft power. On ne vient pas un jour vous dire avec beaucoup de violence qu'il faut passer d'un monde de citoyens à un monde de camarades. Ça, c'est hard. On vous dit des mots comme fiabilité, objectivité des médias, des grandes vertus avec lesquelles on ne peut être qu'en accord, et ça commence comme ça parce qu'on décharge ces grands mots positifs, hein, de leur idéologie. On en fait un socle, on en fait une, ce qu'on appelle la langue de bois, qui est d'abord du solide sur lequel on peut s'agréger. Et du coup, si vous voulez, ces mots-là, eh bien, on fait des retours aux fondamentaux. Et si on prend par exemple le mot peuple souverain, qui a été employé par la première ministre polonaise, bien sûr, comment ne pas être d'accord avec la souveraineté du peuple dans la démocratie, comme le dit d'ailleurs Marine Le Pen, alors même qu'il ne s'agit pas de souveraineté, c'est-à-dire l'essence du mot qui est positive, mais une idéologie qui se dit en isme, c'est-à-dire le souverainisme. Ce mécanisme-là où on remplace de l'idéologie par des mots positifs socles, étendard, drapeau, est extrêmement dangereux.
Merci Mariette Darigrand. Pour ce qui concerne la radio publique, Piotr Moszynski, Bruno Kaden, la nouvelle directrice de la radio publique, donc Barbara Slaniszewczyk, j'espère que je l'ai bien prononcé, a un profil particulier. Hein. Elle n'a pas d'expérience dans l'audiovisuel, mais elle a publié deux livres qui ont beaucoup plu au pouvoir droit et justice. Quelle réputation a-t-elle, Piotr Moszynski? Donc c'est la patronne de la radio publique.
Évidemment, dans l'opposition, tout le monde est angoissé. D'ailleurs, cette angoisse est vraiment générale. J'étais frappé, j'ai passé la semaine dernière en Pologne. Je rencontre, par exemple, une directrice d'une radio privée qui me dit « Écoute, depuis 10 jours, j'ai déjà reçu une trentaine de demandes d'emploi de la part des journalistes de l'audiovisuel public ». Qui sont déjà limogés ou s'attendent à être limogés. Ça vous donne l'image de l'atmosphère, de l'ambiance générale. Évidemment, Madame Slaniszewczyk est un des éléments. Je n'attirerai pas beaucoup d'importance à la personne, car c'est vraiment un élément de système qui est mis en place actuellement. Et bon, les personnes sont choisies en fonction de leur docilité, c'est très simple.
Alors Bruno Kaden, Barbara Stanislavczyk,
a écrit un livre sur le crash aérien de Smolensk en remettant en cause la thèse du crash aérien pour parler d'attentat. Et ça plaît beaucoup au pouvoir en place.
Oui, il faut savoir que pour Jarosław Kaczynski, la mort de son frère et puis il y avait énormément de... C'est un petit peu une partie de l'élite qui était dans cet avion. Et évidemment, un drame absolu. Immédiatement après, le jumeau survivant et le PIS sont partis dans la théorie du complot des Russes qui avaient voulu décapiter la Pologne et ont remonté à Katyn, etc. Et donc, dans ce système qui est en train d'être mis en place, qui ressemble vraiment franchement à l'arrivée au pouvoir de Poutine, d'ailleurs, on fait exactement les mêmes choses. Si vous avez quelqu'un qui arrive et qui est docile, effectivement, comme il était dit, et qui arrive avec, en défendant la thèse que le pouvoir a envie d'entendre, eh bien c'est le boulevard devant lui. Et donc, ça, c'est très, très inquiétant.
Damn. Okay. Boys and girls, welcome to Ragamuffin Storybook.
To jest historia polskiego Regemosy. Wpadło panowi, ja tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego Regemosy. Kiedy muzyka Regie spadła tutaj na ten kraj.
To jest historia polskiego Regemosy. Wpadło panowi, ja tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego Regemosy. Kiedy muzyka Regie spadła tutaj na ten kraj.
80 lata brata szuka pan krok z Londynu na Jamajkę. Tylko jeden krok, a Włodek Klesz i Sławek Gołaszewski nadają przez radio Dio wędrowców pieśni. Kryzys, brygada kryzys i śmierć kliniczna znajdą reggae linię, na razie to linia styczna. Potem jest rap, potem jest dab, ale to zespoły Bakrzysz i Izrael, a dwie odmienne szkoły
Biada, biada, biada.
Kto nie pamięta, temu grozi zagłada.
Biada, biada, biada.
A baba ma historię tutaj, bracie, teraz opowiada, bo
to jest historia polskiego reggae Massive. Pablo Pawa nawija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae Massive. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj. To jest historia polskiego reggae Massive. Pablo Pawa nawija tu do ciebie jak anonim gal. To jest historia polskiego reggae Massive. Kiedy muzyka reggae spadła tutaj na ten kraj.
We Wrocławiu amiki mauzoleum ma pile.
Poland Story du groupe polonais Vava Muffin, un groupe de Varsovie. Et l'Europe, comme disait quelqu'un qui fait les gros yeux, qui s'est réuni cette semaine à Strasbourg. Eh bien, on écoute Jean-Claude Juncker.
La Commission n'a pas un problème avec la Pologne. Nous avons un problème avec certaines initiatives du nouveau gouvernement polonais. Ne confondons pas la Pologne et le nouveau gouvernement polonais dans tous ses aspects possibles. Moi, je ne voudrais pas que les Polonais aient l'impression que l'Europe entière soit dressée contre la Pologne. Et je voudrais ici dire que la Pologne est un acteur essentiel de la construction européenne aux performances économiques ces dernières années tout à fait impressionnantes.
Voilà le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, au micro de Johanna Hochstein, de notre bureau à Bruxelles. Jurek Kuszkiewicz, la liberté d'expression est une valeur fondamentale pour l'Union européenne. Est-ce que l'intervention de Beate Szydło, mardi dernier, la première ministre polonaise, a rassuré les eurodéputés de Strasbourg?
Non, je ne crois pas. Elle a fait une intervention, je dirais, sur la forme assez habile, assez forte, et s'est pas laissée déstabiliser. Mais en fait, ce à quoi on a assisté à Strasbourg, c'est à une très claire confrontation qui était vraiment très, très, très visible, très perceptible entre deux conceptions de la démocratie. D'un côté, la conception du nouveau gouvernement polonais, qui est de dire « nous avons gagné les élections, et donc nous avons tous les pouvoirs ». Puisque nous avons été élus, nous sommes là pour exécuter la volonté du peuple qui nous a élus, et donc nous avons tous les pouvoirs, nous pouvons changer les patrons des administrations, le tribunal constitutionnel, etc. Et toute contestation de cette volonté revient à contester la souveraineté de l'État polonais, et en particulier du gouvernement qui le représente. Et Jean-Claude Juncker, d'ailleurs, il était assez juste, il a dit quelque chose de fondamental en disant que nous n'avons rien, donc nous, Commission européenne, n'avons rien contre la Pologne, mais contre certaines actions du gouvernement polonais. C'était en réalité assez bien tapé parce que toute la ligne justement du gouvernement, ou plutôt du PiS et de Jarosław Kaczynski, consiste à dire nous sommes élus, nous sommes le gouvernement, et donc le gouvernement polonais et le peuple polonais ne font qu'un. Nous sommes la seule incarnation légitime du peuple polonais. On sait très bien qu'en démocratie, ce n'est pas le cas. Il y a le gouvernement, il y a la majorité, l'opposition, et les deux représentent ou incarnent le peuple en question dans toute sa diversité. Et donc, en face alors, il y a la conception, je dirais, européenne, celle des valeurs européennes, qui est que la démocratie, ce qu'en Pologne aujourd'hui on appelle beaucoup la démocratie libérale, c'est-à-dire une démocratie où la majorité ne peut pas dicter entièrement sa volonté, où la minorité, notamment l'opposition et les autres minorités, doivent être respectées. Et donc, il y a une phrase très juste qui a été dite par un élu du Parti populaire européen, donc disons de la droite conservatrice au Parlement européen, qui était de dire à Beata Szydło, vous avez été élu, vous êtes légitime, vous pouvez changer les lois, mais vous ne pouvez pas changer les valeurs. Et donc ces deux visions-là de la démocratie, je trouve, ont été très très bien incarnées, et on comprend évidemment du coup toute l'implication de cette polémique entre l'Europe et la Pologne.
Alors je vois Marc Sémo à côté de moi qui tord la bouche.
Non, simplement le problème, c'est que cette conception de la démocratie, qui est celle du Parti droit et justice, c'est-à-dire nous avons gagné les élections, donc on fait ce qu'on veut parce que nous sommes l'incarnation de la souveraineté du peuple, est une conception qui est en train de s'étendre. Bon, on parlait de la Turquie, mais surtout, le modèle de cela, ça a été la Hongrie de Viktor Orban. Et, alors là, aujourd'hui, une des raisons peut-être pour laquelle la Commission européenne a réagi aussi vite, c'est qu'il y a eu le précédent hongrois, sur lequel, finalement, on n'a pas fait grand-chose contre Viktor Orban. La différence, effectivement, c'est que le Parti droit et justice ne fait pas partie du Parti populaire européen. Et donc, il a moins de protecteurs. Et ces deux facteurs mis ensemble font qu'aujourd'hui, effectivement, la Commission européenne a ouvert cette procédure de sauvegarde de l'état de droit, qui est assez complexe, qui est assez longue, qui a des chances de ne pas aboutir, mais qui est quand même un véritable avertissement, parce que le danger aujourd'hui est réel et la Commission, comme une partie du Parlement européen, le voit.
Ce que dit Marc Sémo est très juste, mais
ce que j'ajouterais,
donc c'est très juste, évidemment, le fait que le parti de Viktor Orban est affilié à la famille démocrate chrétienne européenne, ce qui n'est pas le cas du Parti droit et justice. Il y a une autre différence, qui n'est pas une différence juridique, mais c'est une différence de fait, c'est qu'en Hongrie, Viktor Orban est beaucoup plus soutenu, dispose d'un soutien populaire dans toutes les thèses nationales, voire nationalistes qu'il avance. Il est beaucoup plus soutenu dans la société hongroise que Kaczynski et le pouvoir actuel ne l'est en Pologne. Pour preuve d'ailleurs, les énormes manifestations et le mouvement citoyen qui vient de se créer, le comité pour la défense de la démocratie, qui fait référence au comité pour la défense des ouvriers, qui était un peu le précurseur de solidarité dans les années 70. Et donc ce mouvement qui a très rapidement organisé des manifestations monstres. Et donc en Pologne, là, le clivage est beaucoup plus... les divisions sont beaucoup plus importantes et donc il n'y a pas de soutien monolithique, c'est peut-être pas le cas en Hongrie, mais en tout cas le soutien à Kaczynski est beaucoup moins fort que ne l'est celui en faveur d'Orban en Hongrie.
Piotr Moszynski de RFI à Strasbourg mardi dernier, qui a gagné l'Union Européenne ou Beata Szydło, la première ministre polonaise?
À mon avis personnel, c'est plutôt l'Union Européenne. Mais il faut dire que Beata Szydło est revenue au pays triomphante. Et son parti souligne qu'elle a vraiment gagné, que son ministre des Affaires étrangères a même déclaré que voilà, un nouveau leader européen est né, en pensant justement à Beata Szydło. Donc je crois que, en fait, toute information qui arrive au droit et justice est tout de suite transformé pour dire nous dominons, nous avons gagné et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. C'est ça l'état d'esprit de ce parti en ce moment. Et finalement, je crois que pour la Commission, il y a aussi une volonté de donner un avertissement sur un exemple beaucoup plus convaincant que la Hongrie. La Pologne est un pays beaucoup qui joue un rôle beaucoup plus grand en Europe, et en pensant aussi à la France. Car je crois personnellement que les Français devraient observer tout ce qui se passe en Pologne très attentivement. C'est un véritable laboratoire qui montre vraiment à l'échelle 1 à 1 qu'est-ce qui se passe quand un parti souverainiste et populiste arrive au pouvoir après avoir adouci sa propagande pour la campagne électorale. C'est qu'elle fait quand elle arrive au pouvoir et quand elle l'exerce vraiment. C'est très intéressant à voir de Paris. Je vous le conseille vivement.
Marc Semo, de Libération. C'est vrai qu'on ajoute, on agite le chiffon rouge hongrois dont vous parliez, mais il y a d'autres chiffons rouges.
Parce que dit Piotr Moszynski sur le Parti de droit et justice et l'évident parallèle avec le Front national en France, oui, est bien réel. Cette manière de conjuguer le souverainisme, le nationalisme, de faire du social. Hein, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une des raisons pour lesquelles le Parti droit et justice a gagné aux dernières élections, c'est qu'il a fait du social. Il a fait une politique étatiste, entre guillemets, presque de gauche. On a augmenté les retraites. On a, je crois, même augmenté les salaires.
On va. On veut.
Absolument. Donc, il y a ce mélange qui est là. Et évidemment, il y a ce parallèle.
Bruno Caden.
Oui, c'est ce que disait Marc Semo tout à l'heure. C'est la Pologne A et la Pologne B. C'est ce qu'on a dit pendant la campagne électorale. C'est-à-dire une Pologne A à l'ouest et dans les grandes villes et à Varsovie, jeune, urbaine, libérale, qui a profité de la grande croissance économique. Et puis une Pologne B, plus rurale, plus catholique, plus dans l'est du pays, avec plus de chômage, qui s'est sentie comme exclue et qui avait un profond désir de revanche. Et Droit et Justice a été le seul parti qui a vraiment parlé à ces gens-là. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'en Pologne, la gauche n'existe plus. Le Parti social-démocrate n'est même plus présent au Parlement. Il n'a pas franchi la barre des 7% puisqu'il était en coalition. Et donc le Parti libéral de la plateforme civique qui était au pouvoir avait un petit peu de mal à parler. En fait, le parti au pouvoir disait « Oui, mais vous regardez, on a construit des autoroutes, on a construit des aéroports, on a construit des stades pour organiser l'Euro de foot, les championnats du monde de volley, les championnats d'Europe de hand. Donc, vous voyez, ça marche. » Et les gens disaient « Mais et nous, on n'a pas l'argent qui va en face. » Donc, le parti libéral avait du mal à parler à ces gens-là. Et PiS a tout de suite compris qu'il fallait aller vers cet électorat.
Jurek Kuszkiewicz, comment faire respecter la liberté d'expression à l'intérieur de l'Union européenne? On a vu que c'était compliqué mardi à Strasbourg. Est-ce que les sociaux-démocrates sont tous unis là-dessus?
Tout le monde est susceptible d'être un petit peu gêné. Effectivement, les sociaux-démocrates ont leur, je dirais, leur zone d'ombre, voire même leur brebis galeuse. D'ailleurs, ils ont pris des initiatives, notamment par rapport au premier ministre slovaque. Mais il n'y a pas que les sociaux-démocrates. Il y a aussi les libéraux, qui sont le groupe libéral au Parlement européen, donc auquel est affilié le MoDem, donc les centristes français, qui a toujours fait, disons, de la défense des valeurs fondamentales, des libertés, son cheval de bataille. Ils ont toujours été très forts en pointe contre, effectivement, les dérives de Viktor Orban en Hongrie. Ils le font de nouveau ici en faveur de la Pologne. Ceci étant, malgré tout, et de nouveau, c'est ce qu'on a vu au débat en séance plénière cette semaine-ci à Strasbourg, on voit quand même très bien, alors évidemment, il y a les affiliations politiques, le côté partisan dont on a déjà parlé, qui complexifie un petit peu le jeu, mais on a quand même très bien perçu au Parlement européen qu'il y a très globalement quand même une conception partagée très largement au Parlement européen d'une certaine vision de la démocratie, comme je le disais tout à l'heure, et sur laquelle probablement vont s'articuler des actions, notamment l'action de la Commission européenne encore dans les semaines et dans les mois à venir, notamment en défense d'une de ses valeurs fondamentales qui est la liberté d'expression et la liberté de la presse. Mais je crois que le plus important, c'est que c'est quand même en Pologne, c'est l'opposition en Pologne des citoyens polonais, notamment de cette partie de l'électorat qui n'est pas l'électorat de base du PiS, mais qui tout simplement, comme dans toutes les élections, mais qui a fait un petit qui est centriste et qui vote une fois d'un côté, une fois de l'autre, qui cette fois-ci a penché en faveur du PiS, mais qui n'a pas du tout voté pour ce qu'on est en train de voir. Ils ont voté pour le programme social du PiS, pour le changement, pour un PiS qui présentait des visages avenants, ceux du président et de la première ministre, policés, Kaczyński qui avait totalement disparu de la campagne. Ils n'ont pas du tout voté pour ce qu'on voit maintenant. Et donc, je crois que c'est surtout le mouvement de contestation en Pologne même, relayé et probablement soutenu au niveau européen, je pense qu'il aura raison de tout cela.
Piotr Moszynski, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations en Pologne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'étape 2, de la prochaine loi qui devrait arriver en juin? Sur les médias, oui.
Alors, surtout des licenciements massifs, car la loi...
C'est-à-dire que tous les contrats vont s'arrêter.
Oui, la loi dit textuellement, elle n'est pas encore votée, mais le projet dit textuellement que tous les contrats de travail au sein de l'audiovisuel public s'éteignent 3 mois après l'entrée en vigueur de la loi. Donc, pendant les 3 mois en question, les nouveaux dirigeants vont faire une revue de troupes pour voir qui est plus docile qui est moins docile, qui est du côté du PiS qui ne l'est pas. Et puis, au bout de 3 mois, certains contrats vont être renouvelés et d'autres pas. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, l'opinion publique en Pologne a l'impression de déjà-vu. C'est-à-dire, malheureusement, ça rappelle furieusement l'ambiance de l'état de guerre de général Jaruzelski dans les médias. C'est-à-dire, c'était exactement, presque exactement la même chose. Il y avait des licenciements massifs et après, il y avait ce qu'on appelait des commissions de vérification. Tous les journalistes devaient se présenter individuellement devant une commission qui leur posait des questions sur ce qu'ils pensaient. Et après, la commission décidait si le contrat était renouvelé ou pas.
Marc Semo, la Pologne, une alliance Varsovie-Budapest, ça c'est très embêtant pour l'Union européenne.
Mais de fait, elle existe déjà. Hein, Viktor Orban et Kaczynski se sont rencontrés.
Oui, le 6 janvier. Voilà. On en a beaucoup parlé, oui.
On en a beaucoup parlé. Et c'est ce qui rend d'ailleurs assez perplexe et sceptique sur la possibilité que cette procédure de sauvegarde pour l'état de droit aboutisse. Elle est assez complexe, elle est longue. Il faut une majorité. Alors, majorité à l'européenne, c'est-à-dire l'ensemble de pourcentages au niveau des peuples et des États. Et il y a tout un camp qui soutient la Pologne. C'est-à-dire, bon, on en parlait, Viktor Orban, mais d'une certaine façon, notamment sur la question des migrations, Robert Fico, qui est le premier ministre slovaque social-démocrate, est sur la même ligne. En République tchèque, c'est toujours un gouvernement de gauche qui est sur ces questions-là sur la même ligne. Donc on s'aperçoit vraiment qu'il y a aujourd'hui une coupure de l'Europe entre ces deux parties, alors, notamment sur la question des migrations, du multiculturalisme, etc., etc., mais qui, de fait, risque de recouper cette espèce de vision un peu nationale autoritaire qui est en train de naître et de se développer dans tout l'Est de l'Europe. Et malgré la mobilisation qui est réelle de la société civile, cela rend quand même perplexe.
Marie Darigrand, cette question de la liberté d'expression, on voit les menaces qui pèsent dans certains pays de l'Union. En France, la liberté d'expression est considérée alors comme un acquis.
Absolument, c'est dans notre ADN, hein, comme on dit, et l'affaire Charlie a montré qu'elle était capable, encore cette notion aujourd'hui, de faire descendre beaucoup de gens dans la rue. C'est comme si la France, c'était la liberté d'expression. Elle est dans notre devise, autant la fraternité et l'égalité sont aujourd'hui quand même un peu remises en cause, autant la liberté d'expression, nous y croyons mordicus. À tel point que c'est quelque chose que nous sacralisons, et qui, je crois, c'est mon hypothèse en tout cas, paradoxalement, nous fragilise là-dessus. C'est-à-dire que nous croyons protéger. C'est comme le numen des empereurs romains. C'est une espèce d'aura qui serait sur chacun des citoyens. On a bien vu avec l'affaire Charlie que c'était au contraire une façon de fragiliser incroyablement des gens. Ils représentaient la liberté d'expression et à ce titre-là, ils n'étaient pas protégés. Donc, vous voyez qu'il y a un décalage entre la sacralisation et le réel. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, peut faire très peur dans l'exemple, en quelque sorte, de l'Europe de l'Est aujourd'hui, par laquelle nous ne sommes plus séparés par un mur. Nous sommes ensemble et donc nous pouvons être contaminés, en quelque sorte, par ce qui se passe. C'est très proche sur le plan idéologique avec le populisme. Et puis, je crois que la liberté, du fait plus générale en Europe, dans le monde contemporain, il y a un deuxième facteur qui peut-être peut nous faire peur. J'appellerais ça l'auto-limitation, les limitations venues de l'intérieur dont nous ne nous rendons pas compte. Alors, je donnerai 2 exemples. Mmh. Il y en a une qui est technique. On en a déjà parlé ici, c'est-à-dire quand les robots technologiques contrôlent le travail des journalistes, il faut que vos mots soient référencés pour des raisons statistiques. C'est une mini écorchure, petit coup de canif dans le contrat, mais n'empêche que c'est quelque chose qui remet en cause d'une certaine façon la liberté d'expression avec un grand L. Et puis une deuxième qui est d'ordre plus idéologique, avec ce qui est appelé déni de réalité, je n'aime pas cette expression, mais plutôt hésitation à parler, je pense en particulier à ce qui s'est passé à Cologne, mais d'une façon plus générale, à des réalités qui nous gênent, que nous ne savons pas analyser, qui sont extrêmement complexes, et qui, si nous en parlons, là je dis nous, enfin, les journalistes, les médias, et puis les commentateurs des médias, que sont les consommateurs, si vous voulez, aujourd'hui, eh bien comme nous ne savons pas très bien comment en parler, nous avons peur des effets, quels qu'ils soient, précisément parce que le populisme est là, eh bien, du coup, nous n'en parlons pas ou nous arrêtons d'une certaine façon, même de façon temporaire, la liberté d'expression, ce qui est grave aussi.
Merci Mariette Darigrand, merci à tous. Avant d'aller à Jérusalem, le clin d'œil de Yacine Bouzard, la violence contre les femmes après les événements de Cologne. France Culture a consacré une journée spéciale mercredi dernier pour sortir du silence.
Ces femmes sont à la merci d'hommes qui ont décidé qu'une femme qui était seule, on les considère comme des prostituées.
Je suis certain qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas à ça.
Ce qu'elles aiment, quand elles nous appellent, eh ben c'est qu'on ne met pas en doute ce qu'elles ont raconté. On leur dit qu'on les croit, que la personne qui leur a fait ça n'a pas le droit de faire ça, qu'elles n'y sont pour rien, et ça c'est fondamental. Elles n'y sont pour rien.
Je suis certain qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol, je ne crois pas ça. Qu'il y a eu une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire.
S'il y a trois femmes, ou deux, ou une, qui dit « j'ai vu un forum », ça m'a amené à réfléchir et je vais peut-être changer des choses. Pour moi, c'est réussi. Mais il faut le faire tout le monde. Et c'est pas l'affaire que des femmes. C'est l'affaire aussi des hommes.
Je suis certain qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas ça. Qu'il y a eu une imprudence. On peut pas le... je sais pas comment dire. Qu'il y ait un troussage... qu'il y ait un troussage... de domestique, je veux dire, ce qui n'est pas bien.
L'actualité à l'étranger, nous allons à Jérusalem retrouver notre correspondant Étienne Monin. Shabbat shalom, salam alaikum Étienne.
Malikoum salam, Shabbat shalom Frédéric.
L'actualité chez vous cette semaine est dominée par le meurtre d'une mère de famille dans une colonie de Cisjordanie.
C'était dimanche, donc au sud d'Hébron, ce qui est un secteur très tendu. Une jeune mère de famille a été poignardée. Et ce qui marque, en plus du drame personnel, c'est l'éruption de cette violence au sein même des maisons israéliennes. Ce sentiment que la dernière barrière a été franchie est très bien expliqué par Yifat Erlich dans Yediot Aharonot. Ce qu'il explique, c'est que jusqu'à présent, la vague de terrorisme, c'est le terme employé côté israélien, avait lieu à l'extérieur. C'était sur les routes, les arrêts de bus, les gares. Il y avait un extérieur menaçant, mais un intérieur sécurisé. Cette ligne a été franchie avec cette attaque et une autre lancée lundi dans une colonie contre une femme enceinte qui a été légèrement blessée. La crainte, c'est l'effet d'entraînement. La réalité, c'est qu'il faut vivre maintenant avec la proximité de cette menace. Il n'y avait pas eu d'attaque dans une maison israélienne depuis un peu plus de 4 ans. Mais dans ces attaques, il n'y a pas que la haine et la peur qui émergent. La jeune femme enceinte attaquée lundi a témoigné dans la presse. Elle appartient à la famille d'un rabbin qui prône la coexistence. Elle s'appelle Michal Froman. Il y a beaucoup d'humanité quand elle parle du jeune agresseur palestinien qui lui a donné un coup de couteau dans l'épaule. Elle dit notamment qu'elle a vu la confusion dans les yeux de ce jeune homme. Malgré l'agression, elle voit en lui un être humain et pas seulement un terroriste.
Alors, y a-t-il eu des répercussions, Étienne Monin, à tous ces événements? Des répercussions politiques, hein.
Oui, la coalition s'est en partie déchirée en début de semaine. Benjamin Netanyahou, c'est monsieur sécurité en Israël. Sa gestion de la vague de violence n'a pas endigué le phénomène. Et le Jérusalem Post pose maintenant la question de savoir s'il est en danger à cause de cela. Les coups viennent de son propre gouvernement, celui de l'aile dure de la coalition, dirigée par le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Il a attaqué frontalement Benjamin Netanyahou en disant que le pays était sclérosé, que finalement le plus grand danger aujourd'hui pour Israël, c'était son premier ministre et son ministre de la Défense. C'est le prix politique à payer pour cette vague de violence, estime l'éditorialiste du Yediot Aharonot, Naoum Barnea. L'opinion publique trouve que le gouvernement est impotent. Il n'y a pas de coalition de substitution. L'extrême droite en profite donc pour faire sa campagne.
Et la gauche, Étienne Monin, dans tout ça?
La gauche, cette semaine, elle a tenté de marquer son territoire avec un positionnement tellement sécuritaire que le journal de gauche Haaretz y voit l'esprit de Benjamin Netanyahou. Le leader de cette gauche, c'est Isaac Herzog. Son parti, c'est l'Union sioniste. Son positionnement, c'est « séparons-nous le plus vite possible du plus grand nombre de Palestiniens ». Il veut terminer la barrière de séparation. Il ne croit pas que la solution à deux États soit possible en ce moment. Ça tombe un peu comme une droitisation de la gauche. Ou bien un retour aux sources, si l'on suit l'historien et ancien député travailliste Michel Barzoir.
Il est temps que le public, grand public, comprenne que le parti travailliste d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on leur a peint devant eux comme un parti d'extrême gauche qui s'intéresse beaucoup plus aux Arabes qu'aux Juifs et qu'aux Israéliens. N'oubliez pas tout, tout l'établissement, l'establishment de sécurité, de défense, ses racines sont dans le mouvement travailliste, tous, y compris les chefs d'état-major. Et quand vous regardez les grands exploits dans le domaine de défense, vous allez voir c'est les armes qu'on a achetées à la France, l'alliance avec la France dans les années 50, le réacteur nucléaire, la guerre des six jours et ses résultats. Tout ça, c'est l'œuvre d'une gauche très militante, très forte, mais aussi une gauche qui, sur le plan social, n'aurait pas pu supporter ce qui se passe aujourd'hui en Israël.
Voilà une gauche à reconstruire avec un point de fer. Pendant ce temps, l'autre gauche, celle des ONG qui luttent contre l'occupation, elle est prise sous le feu de la droite qui alimente depuis des semaines une campagne de dénigrement. Elle est également menacée par une loi sur le financement qui devrait bientôt être discutée à la Knesset.
Merci Étienne Monin, correspondant de France Culture et de Radio France à Jérusalem. Merci à tous, l'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Jurek Kouchkevitch en charge de l'Union européenne au journal Le Soir. Et merci à Quentin Dickinson, notre correspondant à Bruxelles, pour avoir permis ce duplex. Avec Paris, Piotr Moschinski, journaliste à Radio France Internationale. Marc Semo, rédacteur en chef du service Monde de Libération. Bruno Caden, grand reporter au service étranger de France Culture. Merci à nos deux correspondants, Étienne Monin à Jérusalem, que l'on vient d'entendre. Et Maya Simanowska, correspondante à Varsovie, notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue du secret des sources, le clin d'œil de Yacine Bouzard dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Antoine Tricot, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Valérie Lavalard, dans un instant le journal d'Élodie Forêt, suivi de répliques, la philosophie et la vie, c'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr, rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
Malheureusement, ça rappelle furieusement l'ambiance de l'état de guerre de général Jaruzelski dans les médias. C'est-à-dire, c'était exactement, presque exactement la même chose. Il y avait des licenciements massifs et après, il y avait ce qu'on appelait des commissions de vérification.
Donc depuis que ce Jacek Kurski est à la tête de la télévision publique, effectivement, le JT a beaucoup changé. Ça, c'est devenu vraiment un organe de propagande des conservateurs.
Ce qui est en train de se passer au niveau des médias, pour le moment, ça vise les médias publics, mais déjà, ça commence à viser les médias privés. Mmh.